RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
Entre juifs et chrétiens, l'histoire est tumultueuse, des premières communautés judéo-chrétiennes jusqu'aux pogroms médiévaux. Nous allons voir avec le père François Lestan, professeur à l'UCLI, comment cette histoire pleine de bruit et de fureur s'est nouée et quelle est la force et l'intérêt des liens entre les juifs et les chrétiens au cours de l'histoire. Père François Lestan, bonjour.
Bonjour Daniel Richon, bonjour à toutes et à tous.
On va reprendre les choses depuis le début. Quand est-ce que les juifs qui croient en Jésus et les juifs qui attendent le Messie se sont séparés?
Il y a une cinquantaine d'années, j'aurais répondu, c'est très simple, c'est juste après la destruction du Temple. Et d'ailleurs, l'évangile de Jean qui parle de chasser des synagogues en est la preuve. Donc on aurait, dès les années 90, une vraie séparation entre la synagogue et l'Église. Ça, c'est ce qu'on disait jusqu'il y a une cinquantaine, soixantaine d'années. Et puis aujourd'hui, les recherches sur la séparation des chemins entre les deux communautés nous montrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que selon les endroits géographiques, ça a pris beaucoup plus de temps. À tel point que jusqu'au IVe siècle, il semble qu'on puisse trouver des fréquentations régulières d'une communauté avec l'autre côté. Et donc on a de fait une vraie question sur la date précise d'une séparation totale entre les deux communautés.
Donc entre le 1er et le 3e siècle, voire le 4e, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en Jésus, des chrétiens, qui vont à la synagogue de façon habituelle. C'est ça que vous êtes en train de dire ?
Oui, qu'il y a des communautés judéo-chrétiennes qui vont demeurer. Mais ce qui est marquant avec donc 325, qui est le premier grand concile, la première grande assemblée d'évêques de l'Église chrétienne, convoquée par l'empereur Constantin, une des conséquences, outre d'affirmer la divinité de Jésus, c'est de dire que la date de Pâques ne sera plus celle des Juifs. Donc les Juifs fêtent la Pâques à la pleine lune du printemps, juste après l'équinoxe de printemps, le 14 du mois de Nissan, et les chrétiens disent, nous on fêtera ça le dimanche qui suit la pleine lune. Et donc là, cette première séparation sur quand est-ce qu'on fait des fêtes, ça indique une vraie séparation des communautés. Et donc là, on peut dire qu'au IVe siècle, on est arrivé à une séparation. Mais on voit avec Jean Chrysostome au début du Ve siècle que dans sa propre communauté à Constantinople, à la capitale de l'Empire, il y a des chrétiens qui vont fréquenter la synagogue et ça le rend un peu furieux. Donc une séparation qui est progressive, petit à petit, avec le fait qu'on a une communauté importante de juifs. Et puis, du côté de ce qui va devenir l'Église, on a une communauté qui d'abord contient principalement des juifs qui croient en Jésus et puis qui s'agrège de plus en plus de non-juifs. Donc, ce qui fait que l'équilibre, la composition interne du groupe qui s'appelle l'Église va être de plus en plus composée de non-juifs et de très très peu de juifs, même si à Jérusalem, il semble qu'il reste d'abord des évêques juifs pendant un bon bout de temps, jusqu'au 2e, 3e siècle, et puis qu'on ait vraiment cette dimension. Mais donc une séparation qui prend son temps, mais qui ne va pas sans hostilité. Là, on peut dire que l'hostilité, elle est réelle. Les Actes des Apôtres nous montrent des persécutions de la part des Juifs qui ne croient pas en Jésus contre Paul et ses compagnons. Et on a dans les deux sens à la fois des chrétiens qui vont détruire des synagogues et des Juifs qui vont aussi détruire des communautés chrétiennes au long des 4 premiers siècles parce que la violence existe dans toute l'humanité et que de fait, entre ces deux groupes humains, entre le groupe de ceux qui croient en Jésus et de ceux qui ne croient pas que Jésus soit le Messie, il y a de fait des hostilités tout à fait réelles tout au long de l'Antiquité.
Et des hostilités qui se poursuivent tout au long de l'histoire, y compris au Moyen-Âge, avec la question d'Agobar et des textes du Moyen-Âge qui sont aussi là, alors on ne va pas dire antisémites, mais on va dire des textes anti-juifs.
Oui, je crois que c'est très important de marquer la distinction entre ces deux mots anti-judaïsme et anti-sémitisme. Parce que pour laisser le dire, l'anti-judaïsme, c'est une critique qui est faite à une manière de croire en Dieu. Une religion, si vous voulez. Donc l'anti-judaïsme, quelqu'un qui était dans la communauté juive, qui observait les règles, donc qui observe le Shabbat, qui mange kasher et qui est circoncis, s'il décide de ne plus aller à la synagogue, de ne plus manger kasher et de vivre à l'église, l'anti-judaïsme tombe aux yeux de ceux qui sont dans l'anti-judaïsme, puisqu'il s'agit de renoncer, d'après eux, à la loi, même si je crois qu'on peut vivre autrement la foi en Jésus qu'en renonçant à la loi et à la cacheroute. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, il y a, à partir du XIXe siècle, toute une théorie d'un racisme. Et là, la race, c'est génétique. Il n'y a pas moyen d'en sortir. On est juif, quelle que soit son opinion. Et donc, de ce moment-là, s'il y a une race, ceci ou cela, et on voit bien les problèmes de racisme et donc vers le nazisme, ensuite que ça a poussé, on a beau être chrétien depuis 4 générations, et parce qu'on aurait apparemment une génétique juive, on serait juif. Et on voit bien la dimension absurde et qui déterminerait l'homme uniquement par ses gènes et pas par sa liberté et par son engagement, à quel point ça, c'est mortellement dangereux. Et donc, il y a cet anti-judaïsme qui, malheureusement, est très, très fréquent tout au long de l'histoire de l'Église chrétienne, parce qu'ils disent, mais nous, on a compris ce que c'est que la vraie vérité de Dieu, et c'est Jésus, et ça veut dire qu'il faut arrêter la loi. Et puis, il y a l'antisémitisme, qui est un poison extrêmement dangereux, contre lequel les papes se sont élevés encore et encore, et qui menace jusqu'à aujourd'hui, dans lequel nous sommes, nous, aujourd'hui, vraiment engagés, les chrétiens, contre l'antisémitisme.
Alors, comment ça se traduit dans les relations entre les Juifs et les chrétiens au Moyen-Âge? Est-ce qu'il y a une relation ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Est-ce qu'on a deux religions qui s'ignorent superbement?
Je pense qu'il y a plutôt un voisinage aussi parce qu'il y a le fait qu'on réserve aux Juifs tel ou tel commerce. Donc, ils vont devenir les fameux usuriers qu'on trouve chez Shakespeare, par exemple. Et donc, ces éléments-là qui vont les catégoriser, qu'ils sont dans les communautés, mais parfois avec des lieux réservés. On sait qu'à Venise va naître donc le ghetto. Et qu'ensuite, mais là, on est déjà après le Moyen-Âge, on est déjà au XVIe siècle, en 1555, avec le pape Paul IV, qui va réduire les Juifs dans un enclos particulier de la rive du Tibre, qui sera là encore un ghetto romain. Et donc, on a toute une histoire de voisinage et de frères plutôt ennemis qu'amis. Et cette mémoire-là, cette mémoire des longues persécutions, et je ne parle pas de tout ce qui s'est fait dans chaque semaine sainte en Europe centrale et en Allemagne pour humilier les communautés juives de la vallée du Rhin, qui sont absolument terrifiantes, cette mémoire-là, nous, les chrétiens, on a parfois tendance à l'oublier parce que ça fait 60 ans depuis Vatican II que, de fait, nous vivons une relation complètement renouvelée et que 50 ans après, nos amis juifs, nos frères aînés juifs, on dit, bon, au bout de 50 ans, vous commencez à devenir crédible. Et on a des textes, 50 ans après Vatican II, qui disent, bon, maintenant, peut-être que vous commencez à être crédible. Mais je me souviens de quelque chose qui est pour moi important, à Rome. Alors, j'ai vécu 7 ans à Rome pour mes études, et donc j'ai pu visiter plusieurs fois le lieu du ghetto, là où maintenant est la grande synagogue où Saint Jean-Paul II est venu prononcer cette phrase, vous êtes nos frères préférés, et en quelque sorte, pourrait-on dire, nos frères aînés. Et là, en face du ghetto, l'Église catholique avait construit une église avec un texte d'Isaïe qui disait « Tout le jour, j'ai tendu les bras vers un peuple qui ne m'écoute pas. » au début du chapitre 65 d'Isaïe, les versets 1 et 2. Et donc là, après Vatican II, des chrétiens italiens ont dit à leurs amis juifs « Non mais c'est vraiment terrible ce qu'on vous a fait pendant des années, les catéchèses forcées, le ghetto. Est-ce qu'on ne pourrait pas enlever cette plaque qui est en hébreu et en latin ?» Et les juifs de Rome leur ont répondu, alors que c'est là, communauté très très ancienne, depuis plus de 2200 ans, dit non, il faut vraiment la laisser parce que vous, les chrétiens, vous allez oublier. Nous, nous nous souviendrons. Cette dimension de la mémoire, elle est très très forte dans le judaïsme et cette capacité d'oubli dans le christianisme, elle est malheureusement assez forte aussi.
Vous avez parlé à plusieurs reprises de Vatican II. Qu'est-ce qui se passe au moment de Vatican II sur les relations entre les juifs et les chrétiens?
Eh bien, on a un texte au sein de la déclaration sur les relations avec les religions non chrétiennes. Alors, au départ, on souhaitait, les évêques souhaitaient un texte qui soit consacré au judaïsme, parce que Jean 23, ayant reçu des gens comme Jules Isaac, le fameux Isaac de Isaac et Malais, pour mettre un terme à l'enseignement du mépris et pour arriver à cette dimension de l'estime, souhaitait vraiment un texte qui manifeste l'engagement après la Shoah, après la destruction des Juifs d'Europe centrale, les 6 millions de morts, de remarquer à quel point l'Église se repentait, à quel point l'Église souhaitait vivre cette fraternité et l'enseignement de l'estime. Alors, pour des questions de politique ecclésiale, on a choisi de ne pas faire un texte seul, mais d'avoir un texte qui soit intégré au sein des autres religions non chrétiennes, ce qui, de fait, n'est pas complètement juste théologiquement. Parce que, comme dit Saint Jean-Paul II, nous avons un rapport avec le judaïsme qui est complètement différent du rapport qu'on a avec l'islam, avec les religions traditionnelles africaines, avec le shintoïsme. De fait, quelque chose qu'on pourrait dire de quasiment intrinsèque et pas extrinsèque. Mais donc, Vatican II, avec ce grand texte de Nostra Aetate 4, nous propose donc de choisir une connaissance et une estime mutuelle.
Et aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce que l'Église nous dit et qu'est-ce que les Juifs nous disent de nos rapports entre nous, Juifs et chrétiens ?
Eh bien, en 2015, donc exactement 50 ans après Nostra Aetate, on a eu une belle déclaration d'un certain nombre de responsables de la communauté juive française qui ont donné aux évêques une déclaration pour le jubilé de fraternité à venir. Et très beau, disons, on a déjà 50 ans, donc ça fait un jubilé, et on dit voilà, maintenant on voudrait ouvrir une fraternité qui sera surtout sur le sens de la responsabilité. Et donc, cette dimension, ils disent, nous les signataires reconnaissons, à l'appui de la recherche historique, que le judaïsme rabbinique et le christianisme des conciles sont conçus dans le passé en s'opposant, dans le mépris et la haine. Les juifs ont souvent payé le prix fort par la persécution. Ces 20 siècles de dénégation ont fait oublier l'essentiel. Nos voix, bien qu'irréductiblement singulières, sont complémentaires et convergentes. Nous avons pour espérance suprême que l'histoire des hommes est un même horizon, celui de la fraternité universelle, d'une humanité rassemblée autour du Dieu un et unique. Nous devons y œuvrer ensemble, plus que jamais, main dans la main. Et donc l'idée pour les Juifs, 50 ans après Vatican II, c'est de dire, oui, avec les chrétiens, on ne sera pas d'accord sur Jésus, mais on sera d'accord sur l'enjeu éthique et la responsabilité et d'une fraternité universelle, ce qui peut faire écho à ce que le pape a écrit récemment avec Fratelli Tutti.
À la découverte des origines juives du christianisme, nos frères aînés sur RCF.